Studio Tamani, voici les informations en français.
Vous êtes à l'écoute de Studio Tamani. Bonsoir à tous et bienvenue. Voici le sommaire de ce journal. Les Maliens peuvent voter avec la carte d'identité, le passeport et le permis de conduire pour le référendum du 18 juin. L'annonce a été faite ce mercredi au Conseil des ministres. Le Mali célèbre ce jeudi 11 mai la 15e édition de la Journée nationale des communes. Elle intervient au moment où l'État fait face à des défis liés à l'accès au financement des collectivités, la paix et la sécurité. Des syndicats de transporteurs routiers ont entamé ce matin une grève de 3 jours, un arrêt de travail qui suscite de la colère chez certains usagers à Bamako. Le développement de ce titre dans un instant avec Assetou Kanté. Salim Diouara est à la technique. La carte biométrique sécurisée n'est plus l'unique document de vote pour le référendum du 18 juin. Les électeurs ont désormais la possibilité de voter avec la carte d'identité, le passeport et le permis de conduire. La décision a été prise hier par le Conseil des ministres. Le gouvernement l'explique par les difficultés liées à la confection et la distribution à temps de la carte d'identité biométrique sécurisée. Moussa Malé Sissoko pour plus d'explications.
Le gouvernement a pris par ordonnance cette mesure dérogatoire à la loi électorale en vue de la réalisation du référendum constitutionnel. La dérogation porte essentiellement sur les articles 4, 70, 100 et 120. Peut-on lire dans le communiqué du Conseil des ministres. Il indique aussi que l'ordonnance vise à pallier les contraintes liées à la production et à la remise des cartes d'identité biométriques sécurisées. Cela à cause du volume de production et du rythme de remise des cartes à leur titulaire. La mesure permettra de donner à l'EJ plus de moyens techniques et de contrôle pour mener à bien sa mission d'organisation et de gestion des opérations référendaires. Rappelons que la nouvelle loi électorale modifiée le 13 mars 2023 prévoit l'utilisation de la carte d'identité biométrique sécurisée comme unique document de vote. Mais avec le retard accusé dans la production de cette carte, le président de l'EJ avait évoqué cette semaine la possibilité pour les électeurs de voter avec d'autres documents.
Et des partis politiques expriment leurs inquiétudes par rapport à l'utilisation des autres documents pour voter. Ils estiment que cela peut engendrer des fraudes électorales. Alassane Abba, secrétaire général de la CODEM, est joint au téléphone par Intala Agbilal.
C'est la carte biométrique qui doit être disponible. On doit tout faire pour que chacun l'ait. C'est pour minimiser la fraude. Les histoires de cartes d'identité, de passeports, avec les histoires de permis, ça ne permet pas de contrôler la fraude. Pour contrôler et limiter la fraude, on a dit d'aller avec la carte nationale biométrique. Si on revient encore à la case de départ, là, on aura fait du bruit pour rien. Tout ce qu'on a dit, là, on a dit qu'on va aller aux réformes pour qu'il y ait des élections désormais crédibles. Je crois qu'on est en train d'aller vers la même chose. Les mêmes causes vont toujours produire les mêmes effets.
Vous pouvez réagir à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. La 15e édition de la célébration de la Journée nationale des communes a été lancée ce jeudi 11 mai au CICB sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition. Le thème annuel est décentralisation et réforme de l'État. Durant 3 jours, les élus communaux et le gouvernement vont échanger autour d'une dizaine de thématiques. Il sera notamment question de l'accès au financement des collectivités, la formation des agents des collectivités, la paix, la sécurité et la cohésion nationale. Les détails avec Diara Faskoy.
Cette rencontre sera aussi focalisée sur le processus de décentralisation et le découpage administratif. Un cadre idéal selon les autorités pour permettre l'atteinte de ces objectifs. Colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation.
La Journée nationale des communes est incontestablement un grand espace où les élites de notre pays ainsi que les partenaires sont conviés à partager leur savoir-faire, leurs expériences et leur vision de la dynamique de la décentralisation. Elle constitue en outre un cadre idéal d'échange, de dialogue entre le chef de l'État et les responsables des exécutifs communaux.
L'approfondissement du processus de décentralisation au Mali se traduit aujourd'hui par les transferts de compétences et des ressources de l'État aux collectivités territoriales, affirme le colonel Lamine Kafogo Sanogo, gouverneur de Koulikoro.
C'est un véritable cadre d'échange thématique sur la décentralisation. Comme vous le savez, il fait la promotion de la démocratie au Mali. Le Mali affecte aujourd'hui 24% de ses recettes au niveau des collectivités, donc ce qui est largement supérieur au montant et reconnu dans l'espace IOMO, qui est de 15%. 100%.
Durant ces trois jours, les acteurs de la décentralisation vont échanger en termes d'acquis, de défis et de perspectives pour la bonne gouvernance dans les 815 communes du Mali.
18h passées de 5 minutes, je vous l'annonçais dans les titres. Les transporteurs routiers du Mali ont entamé ce matin une grève de 72 heures sur toute l'étendue du territoire. Selon les syndicats, cet arrêt de travail fait suite à la non-satisfaction de certains points de leur doléance. À Bamako, la colère gronde chez certains usagers. Un reportage de Enza Traoré.
Au niveau de certains gares de Bamako, des passagers sont en colère car ils sont privés de voyager. Ici, à Sogonongo, les tickets sont validés. Mais le voyage est annulé à cause de la grève du collectif des transporteurs.
On est là, on ne voyage pas, ils ne nous remboursent pas aussi notre argent. Certains sont venus pour les mariages et d'autres aussi veulent retourner.
On n'a rien compris. On est là. On est venu avec nos bagages et on est retourné avec. Toutes nos affaires sont en arrêt à cause de la grève. C'est fatigant.
Selon les responsables du syndicat des transporteurs par autobus, STA, ce mot d'ordre de grève intervient à la suite d'un désaccord avec les autorités. Il s'agit notamment de la suppression des vignettes des autobus. Mamadou Kouma, chargé de la communication des syndicats.
Les syndicats de transporteurs urbains ne font pas partie de la grève. C'est l'interurbain et l'international. Les sous-tramans et les taxis n'en font pas partie. Sinon, ça serait trop grave.
Notons que cette grève, qui a démarré ce jeudi 11 mai, va durer 72 heures selon les transporteurs.
Et l'hôpital du Point G a reconduit aussi sa grève illimitée ce jeudi 11 mai 2023 après un manque de compromis entre le syndicat et les autres autorités. Sur place, le service minimum est observé selon les témoignages de certains patients. Ceux-ci exhortent les autorités et les syndicats à aller à la table de dialogue pour le bien de tous. Dans les campus universitaires, de nombreux étudiants exercent des activités en dehors des cours pour subvenir à leurs besoins. Au campus de Badalabougou, ils sont beaucoup partagés entre les restaurants, les sociétés de gardiennage et les chantiers de construction. Cependant, des pédagogues estiment que ces activités ont des conséquences sur la formation des étudiants. Pourtant, ceux-ci sont conscients de cet impact négatif, mais ils ne savent pas comment joindre les deux bouts. Notre reporter Alassane Sanogo a fait une immersion au campus de Badalabougou suivant le dossier de la semaine.
C'est aux environs de 9h que nous l'avons rencontré au campus de la faculté des sciences et techniques FST de Badalabougou. Awa Koulibaly venait à peine de se réveiller après avoir passé toute la nuit à servir dans un restaurant de la place. Elle dit avoir entamé cette activité par nécessité.
Je travaille pendant la nuit. Je monte à 18h comme ça jusqu'à souvent à l'heure. Le retard des facultés et puis encore manque de soutien des parents. Je dis au lieu de m'asseoir comme ça, cherche quelque chose à faire.
Cette activité qui s'exerce la nuit peut négativement impacter la formation, reconnaît l'étudiante en troisième année sciences comptables et financières.
Ça cause un petit problème parce que toi tu ailles au travail pendant la nuit et que aller à l'école pendant la journée. Il y a le sommeil quoi. Quand tu es fatigué pendant la nuit et que le matin tu n'arrives pas à te réveiller, forcément tu vas passer la journée comme ça. Tu vas pas suivre les cours. Tu peux pas suivre même les cours régulièrement. Tu peux quand même te débrouiller sinon ce n'est pas facile.
Tout comme Awa Koulibaly, plusieurs résidents dans ce campus exercent des activités comme le gardiennage et l'aide maçon.
Vu les difficultés du campus, nous sommes là vraiment, les bourses ne tombent pas en temps. On est obligé de retourner vers ces activités. J'ai fait le gardiennage la nuit.
Ça fait 7 mois que je suis dans ce travail. J'ai fait ça parce que les moyens de mes parents sont limités.
Je suis aide maçon en dehors de l'école et en fait des bétons aussi. C'est parce que des brousses se retardent.
Je dirais que c'est la galère que moi j'ai fait la première année sans la brousse. C'est la galère même qui m'a poussé à les faire.
Le pédagogue Cédouloua admet que ces activités impacte le rendement des apprenants. Toutefois, il leur conseille la bonne organisation.
Quand on passe la nuit, une nuit blanche, à surveiller des immeubles, ou la journée, il faut aussi aller à l'école. Donc le temps de sommeil est considérablement réduit. Ça peut jouer sur la performance de l'étudiant, sur ses résultats. Mais il faut s'organiser pour ne pas trop empiéter sur le temps d'activité scolaire et pour ne pas empiéter aussi sur le temps de travail, parce que c'est souvent indispensable.
Afin de permettre à ces étudiants d'apprendre dans de bonnes conditions, l'enseignant-chercheur propose l'octroi et l'augmentation sans condition des bourses d'étudiants.
Un mot de sport, football, Cannes U17 Algérie 2023, en quart de finale. Les cadets du Mali jouaient cet après-midi contre le Congo-Brazzaville. La rencontre vient de prendre fin avec la victoire du Mali par 3-0. En demi-finale, le Mali va croiser le Maroc le dimanche prochain et se qualifie également pour la prochaine Coupe du Monde de la catégorie. Dans quelques minutes, ce sera le grand dialogue. Bonsoir Mariam Koulibaly. Ce soir, vous allez aborder quel sujet dans le débat?
Le mariage collectif au Mali, un fait de société qui résiste au temps, c'est le thème du grand dialogue d'aujourd'hui. Nos invités sont Haruna Bari, écrivain-chercheur, Boubacar Fofana, président de l'association Nieta de la commune de Banamba, Mamé Conté, chef griot à Banamba.
Merci et très bon débat. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez réécouter ce journal ainsi que toutes les productions de Studio Tamani via l'application Studio Tamani. Vous pouvez télécharger cette application sur Play Store. Restez à notre écoute dans un instant, le magazine. Au Mali, certains enfants reçoivent un apprentissage de la religion dès le bas âge. Cet enseignement peut se faire dans les lieux de culte ou à la maison avec l'aide des parents. Des religieux affirment que les parents doivent veiller à cette éducation afin que les enfants soient des bons pratiquants. Le magazine Tous les enfants du jour s'intéresse au sujet. Il est réalisé par Fatoumata Koudjou avec le concours de nos correspondants.
À Bamako et à l'intérieur du pays, certains enfants soutiennent qu'ils apprennent la religion grâce à leurs parents. Cependant, d'autres affirment qu'ils n'ont reçu aucune initiation.
On nous regroupe pour nous parler de la religion.
On nous enseigne la prière à la maison.
Nos parents nous demandent de prier. Dans les jours à venir, je souhaite construire des mosquées.
Je suis née dans une famille musulmane. Mes parents sont musulmans. Mais je n'ai pas été musulmane sur leurs consignes. C'est moi-même qui ai cherché à l'être.
Tous les samedis et dimanches, nous apprenons les sourates.
C'est le français que nous apprenons à l'école.
À la maison, les parents nous enseignent la religion.
Les parents ont différents moyens pour accompagner leurs enfants dans l'apprentissage de la religion. Certains profitent des vacances pour les inscrire à des cours, d'autres préfèrent l'encadrement à la maison.
À la mosquée, on enseigne le Coran aux enfants. À la maison, je fais aussi de mon mieux pour eux.
J'apprends aux enfants à prier. Je leur enseigne aussi les versets bibliques qu'ils peuvent mémoriser.
Nos enfants vont à l'école. Durant les vacances, on les amène dans les médersas et les mosquées pour qu'ils apprennent la religion. C'est ainsi qu'ils deviennent fidèles à la religion.
Chez les chrétiens, l'enseignement de la religion est initié dès le bas âge. Cela se passe avec la sensibilisation des parents à l'église et l'instruction des enfants à la religion par des monitrices. José Togo est pasteur à Bakas.
Tous les dimanches, lors des prières, nous faisons des prêches. Nous conseillons beaucoup les parents à prendre soin de leurs enfants et les conduire sur le chemin de Dieu. Mais pas que ça. Nous choisissons aussi 4 personnes tous les dimanches pour leur enseigner la religion, les valeurs sociétales et les chants religieux.
Il n'en demeure pas moins chez les musulmans, car l'enseignement est la première recommandation de l'islam, signale des érudits. Selon l'imam Amadou Djankumba, cela permet à l'enfant d'être un pilier dans la pratique de la religion.
Le prophète paix et salut sur lui nous a conseillé de chercher le savoir depuis notre enfance. Donc, ce sont les enfants qui doivent apprendre le plus, parce que ce sont les enfants qui deviennent les responsables de demain. Quand on apprend à l'enfance, on grandit avec les connaissances. Concernant l'adoration de Dieu, l'enfant doit le commencer depuis ses 7 ans.
Du point de vue sociologique, l'enseignement religieux est une ancienne tradition dans nos sociétés, mais il a changé de vocation et de manifestation, nous dit Dr Foje Tandjigoura, sociologue.
Au fil du temps, cet enseignement religieux a subi des mutations qui ont fait primer l'aspect économique sur l'aspect purement religieux. Cela se sent au niveau, n'est-ce pas, de la baisse même de la spiritualité ou de la baisse de la quête du savoir. Certes, l'enseignement religieux reste noble en soi, de façon théorique, mais dans la pratique, il y a des enfants qui apprennent moins. Il y a une inversion des valeurs à ce niveau-là.
Pour les religieux, l'enseignement de la religion reste un devoir pour les parents, car il renforce, selon eux, la connaissance des religions et le respect des croyances.